Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alexandra Nadage-Paclesa. Docteur Nadage-Paclesa, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Docteur Nadage-Paclesa, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l'hôpital de Haute-Pierre, du CHU de Strasbourg. Et vous êtes également coordonnatrice du site constitutif du centre de référence des maladies neuromusculaires Nord-Est-Île-de-France, qui est situé à Strasbourg également. Alors aujourd'hui, nous abordons la prise en charge de la myasthénie auto-immune. Et pour débuter notre entretien, quels sont les enjeux du traitement de cette myasthénie ?
Le traitement de la myasthénie a plusieurs objectifs. Tout d'abord, il doit réduire au maximum les symptômes et leur impact sur la vie du patient, personnel ou professionnel. La deuxième chose, il faut sauver la vie du patient en cas d'une poussée grave menaçant les fonctions vitales. Et la troisième chose importante, c'est de limiter la gravité de la maladie, la rendre moins capricieuse, moins dépendante des facteurs aggravants habituellement la myasthénie, comme par exemple une infection ou une chirurgie.
Alors, si on débute par l'aspect symptomatique, quels sont les traitements symptomatiques disponibles pour cette pathologie ?
Bon, les traitements symptomatiques appartiennent au groupe des anticholinergiques. Pour comprendre leur action, il faut savoir que la transmission dans la jonction neuromusculaire se fait grâce à un neurotransmetteur, une enzyme qui s'appelle l'acétylcholine. Le traitement anticholinergique va bloquer l'enzyme qui détruit l'acétylcholine et donc, grâce à cette action, il y aura davantage d'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire, ce qui va améliorer la transmission neuromusculaire. Ces traitements anticholinergiques ne soignent pas la myasthénie, n'ont pas d'influence sur l'évolution naturelle de la maladie, ne vont pas, par exemple, empêcher une apparition d'une nouvelle poussée, mais peuvent plus ou moins efficacement alléger une fatigabilité musculaire. Ces traitements, on les administre habituellement par voie orale. Ils peuvent occasionner quelques effets indésirables, comme des douleurs abdominales, des diarrhées, une hypersudation ou des crampes.
Et au-delà de ces traitements symptomatiques, quels sont les traitements de fond possibles ?
Le traitement de fond repose soit sur le corticoïde seul, soit sur un immunosuppresseur seul, soit sur l'association de deux. En ce qui concerne les corticoïdes, ce sont des médicaments extrêmement efficaces dans la myasthénie. Ces traitements permettent de stabiliser, voire induire une rémission pharmacologique complète ou partielle assez rapidement, dans quelques semaines. En revanche, les corticoïdes ont beaucoup d'effets indésirables, comme une prise de poids, le diabète, l'hypertension artérielle ou des troubles du sommeil. Le traitement immunosuppresseur seul est proposé habituellement aux patients qui présentent une contre-indication aux corticoïdes. Il est habituellement bien toléré, mais a un délai d'action retardé d'au moins 6 mois, voire parfois d'un an. D'où le fait que nous utilisons parfois une association de deux corticoïdes et d'un immunosuppresseur, surtout chez les patients pour qui nous souhaitons réduire assez rapidement la dose de corticoïdes. Dans le cas d'une myasthénie réfractaire au traitement habituel, le traitement par des anticorps monoclonaux anti-CD20 peut être proposé éventuellement. Ce traitement permet d'éliminer une fraction des globules blanches qu'on appelle les lymphocytes B.
Et dans ce cadre, est-ce que la thymectomie est recommandée ?
Tout à fait. La thymectomie est proposé à tous les patients qui présentent une tumeur thymique, qu'on appelle un thymome. Et par ailleurs, la thymectomie doit être également proposée aux patients jeunes présentant une myasthénie généralisée de début récent, de moins de 3 ans de préférence, avec des anticorps anti-RHCH, donc contre le récepteur d'acétylcholine. Dans ce deuxième groupe de patients, la thymectomie permet d'adoucir l'évolution de la myasthénie, d'utiliser moins de traitements de fond pour obtenir une rémission.
Et cette fois, en cas de crise, de poussée de myasthénie, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients ?
Actuellement, en cas de crise avec des symptômes graves, nous pouvons proposer un traitement par des immunoglobulines polyvalentes ou par des échanges plasmatiques. Ces deux traitements semblent avoir une efficacité comparable et permettent d'améliorer rapidement l'état clinique du patient. Leur efficacité est limitée malheureusement dans le temps, à 1 mois, 6 semaines environ, et la majoration du traitement de fond est donc nécessaire dès qu'un de ces traitements est administré.
Alors une fois que ces traitements sont mis en place, quel suivi est-ce qu'on peut conseiller aux patients ?
Le suivi des patients myasthéniques doit être assuré par un spécialiste qui connaît très très bien la myasthénie. Habituellement, il s'agit d'un neurologue ou parfois d'un interniste. La plupart des patients sont suivis au sein des centres de référence ou des centres de compétences des maladies neuromusculaires qui se trouvent dans les CHU des grandes villes. Pour les patients qui présentent une forme bénigne de la myasthénie, le suivi peut être parfois assuré par un neurologue libéral. Je recommande néanmoins le passage ponctuel au moins au centre de référence pour un avis thérapeutique ou pour évaluer l'intérêt de la réalisation d'une thymectomie.
Et dans ce cadre, est-ce qu'on doit recommander aux patients de faire du sport?
Oui, la pratique du sport est recommandée dans la myasthénie dès que l'état clinique du patient le permet. Pendant la poussée de la myasthénie, le patient peut se déshabituer des efforts physiques. De ce fait, la prise d'une activité physique douce et dans les limites du possible est tout à fait recommandée.
Pour élargir un petit peu, quelle est l'importance de l'éducation thérapeutique dans cette pathologie?
L'éducation thérapeutique est essentielle pour que le patient myasthénique puisse mieux maîtriser sa maladie en apprenant à reconnaître, entre autres, différents symptômes et savoir comment réagir en fonction de leur habitude. Pour cette raison, les équipes des centres de référence neuromusculaires comme ceux à Strasbourg, à Grenoble, à Toulouse, à Marseille ou plus récemment à Angers ont mis en place des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients myasthéniques.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre entretien, docteur Nadège Makleza. Pour conclure, quelles sont les voies de recherche à venir?
De nombreux essais thérapeutiques sont actuellement en cours. Pour certains traitements, la demande de mise sur le marché est en cours. Je pense ici, entre autres, aux antagonistes du récepteur Fc néonatal, on les appelle les anti-FcRn, qui empêchent le recyclage des immunoglobulines dont font partie les anticorps retrouvés dans la myasthénie. Et je pense également à un deuxième groupe de traitements qu'on appelle des anti-C5 qui sont dirigés contre une partie du système immunitaire qui s'appelle le complément. Ces nouveaux traitements seront certainement utilisés dans un premier temps pour soigner les patients avec une myasthénie réfractaire au traitement habituel.
Eh bien, merci mille fois, docteur Nadège Makleza, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie grave qu'est la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.